Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour.
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 C'était il y a une semaine, vendredi 8 septembre. Le sol a tremblé dans les provinces proches de Marrakech, au sud-ouest du Maroc. Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter. Plus de 3000 personnes ont disparu, et bien plus ont perdu des proches, leur logement, leurs affaires, les traces matérielles de leur vie. Un tremblement de terre, c'est pas comme une guerre, on n'y peut pas grand-chose. Personne ne décide de le déclencher, et pourtant. Pourtant, encore une fois, de nombreuses personnes dénoncent la lenteur du pouvoir marocain à envoyer des secours. Dans certains endroits, les secours ne sont d'ailleurs jamais arrivés, et ce sont les habitants, les habitantes, qui ont fait face seuls à cette catastrophe. Pourtant, encore une fois, une catastrophe dite naturelle révèle les conséquences de politiques, notamment coloniales. Le séisme a fait trembler des zones montagneuses, marginalisées en matière d'aménagement du territoire, notamment à cause de la colonisation du Maroc par la France. Parce que bien avant l'indépendance, l'État a concentré ses efforts de développement dans les plaines. Comme la Tunisie ou l'Algérie, le Maroc a constitué un laboratoire d'expérimentation. Des barrages ont été créés pour alimenter la France en matière agricole et industrielle, pas pour le bien-être des Marocains. Seul le Maroc utile et non l'inutile comptait pour la France, selon ce qu'affirmait le maréchal Lyautey, un des grands responsables de la colonisation française. Ce Maroc dit inutile, c'était la montagne, la marge. C'est aussi dans les montagnes que la lutte contre la colonisation a été très forte. C'était il y a 5 jours, dimanche 10 septembre. La tempête Daniel a provoqué des inondations massives dans l'est de la Libye. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes ou disparues, et bien plus ont perdu des proches, leur logement, leurs affaires, les traces matérielles de leur vie. Un ouragan, c'est pas comme une guerre, on n'y peut pas grand-chose. Personne ne décide de le déclencher. Et pourtant. Pourtant, si les températures augmentent, si les ouragans, les incendies se multiplient, ce n'est pas un hasard, mais le résultat de politiques économiques, capitalistes, d'exploitation de grande ampleur, d'humains et de ressources dites naturelles. Pourtant, si en Libye les secours ont mis du temps à arriver, c'est aussi parce que de moins en moins de structures associatives et humanitaires existent sur le territoire libyen. Pourtant, si de nombreuses personnes qui ont perdu la vie sont des personnes noires réfugiées en Libye, ce n'est pas un hasard, mais les conséquences des politiques migratoires européennes. Depuis des années, le mouvement Refugees in Libya, de multiples associations et organisations, dénoncent les violences commises par les pouvoirs libyens. MSF a même annoncé, au début du mois de septembre, qu'ils n'interviendraient plus dans les centres de détention de Tripoli, à l'ouest de la Libye, parce qu'ils étaient empêchés de prodiguer des soins aux détenus. Et pendant ce temps, l'Union européenne offre des millions d'euros aux pouvoirs libyens, ainsi que toujours plus d'équipements militaires, des drones, des bateaux, des douanes, des programmes militaires d'entraînement. Alors, aux infos choisies, on avait envie d'envoyer des pensées de solidarité à celles qui ont perdu des proches, des biens, des bouts de leur vie, à celles qui subissent de plein fouet les conséquences de ces politiques coloniales et capitalistes, à celles qui s'organisent pour faire face à la catastrophe, à celles qui se tiennent ensemble dans ces moments de deuil, de perte et de douleur, à celles qui ont perdu la vie et à celles qui continuent à vivre.
Sous les ponts d'Avignon, on y écoute, on y écoute. Sous les ponts d'Avignon, on y écoute les infos choisies.
Et oui, les infos choisies, c'est sur Ayoli FM et Radio Galère.
Donc il est un peu plus de 12h30 et c'est parti pour une demi-heure d'infos choisies. Au programme de cette semaine, du soutien, beaucoup de soutien. Au camarade Brahim, victime d'une attaque raciste. À la librairie L'Hydromille-Tête, victime d'un incendie. Et aux mineurs qui dorment à la gare depuis des mois dans l'indifférence des pouvoirs publics.
Vous êtes toujours sur Radio Galère. 88.4 FM.
Donc, mercredi matin, le 13 septembre, il y a eu un rassemblement devant les locaux de l'ADAP 13 à Marseille, au métro Bougainville. L'ADAP 13, c'est l'asso mandatée par le département pour la mise à l'abri des mineurs étrangers. Elle est censée garantir à ces jeunes leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire au minimum un logement, de la nourriture, un accès à la santé et à la scolarité. La réalité, c'est que des dizaines d'enfants et ados se retrouvent à la rue sans aucune prise en charge. Ils et elles sont nombreuses à dormir près de la gare depuis des mois et à s'organiser pour survivre. On constate une politique raciste et négrophobe, particulièrement envers les jeunes subsahariens, ici originaires de Gambie, de Côte d'Ivoire et de Guinée. Encore une fois, certaines enfants ne sont pas considérées comme telles par les institutions françaises, qui préfèrent les voir comme une menace plutôt que de mettre en place un accueil digne et un accès à leurs droits élémentaires.
Moi, c'est Mamie Jérôme, j'ai 16 ans, 8 mois. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a plusieurs fois dormi dans la rue et à chaque fois qu'on vient ici, on répète toujours les mêmes choses, de repasser après. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait ici un mois, deux mois, qui sont toujours dans la rue. Et à la rentrée qui est là, à l'ouverture des classes qui est là, et puis on n'a même pas, on est dans une situation qui est inférieure à nos attentes. Donc c'est pourquoi on a organisé cette marche pour venir prouver réellement ce qu'on ressent. Puisqu'à chaque fois, c'est les mêmes choses. On dort dehors. Chaque fois à la gare, on dort, il y a la chaleur, tout ça, il y a la fraîcheur aussi quand la pluie vient du coup.
Ils ont construit des prisons, des centres de rétention pour y enfermer les sans-papiers. Des lois contre l'immigration, ils en votent à foison, ils en sortent une par saison.
Voilà, là c'est un communiqué qui a été fait par nous. Les mineurs non accompagnés qui tombent dans la rue. C'est un communiqué spécial pour le directeur général de l'ADAP 13. Bon, vu qu'il n'a pas envoyé de personne pour nous recevoir, abandonne-lui le communiqué sans que la personne soit là, parce qu'on ne va pas rester là toute la journée. Monsieur le directeur de l'ADAP, et toutes les personnes qui travaillent à l'ADAP, on est là aujourd'hui car il y a trop de jeunes dans la rue. On est des mineurs étrangers venant de toute l'Afrique. On vient d'arriver en France pour certains. On est là depuis un mois, pour d'autres deux semaines et encore quelques jours. On est arrivé en France sans famille, sans ressources, on vient de l'homme et la route a été longue et dure. Vous le savez très bien, la route a été longue et dure, c'est pas facile pour nous. Ce n'a pas été facile pour nous d'arriver là. Vous savez tout ce qu'on a enduré sur le chemin de l'Afrique. On est tous passés pour la Tunisie là-bas, c'était la chasse aux noirs. On a tous été maltraités par les Tunisiens. Quand on arrive en France là aussi, on nous met dehors, nous n'avons pas d'endroit où dormir et rester. On est tous allés à la DAP 13, ils sont tous venus ici à la DAP 13. Et ils nous laissent dehors. La DAP 13 nous répète à chaque fois les mêmes choses, venez après deux semaines, trois semaines. Des fois il y a 10 semaines de venir après un mois, c'est pas normal. Et chaque semaine nous répète qu'il n'y a pas de place. On ne nous donne pas de nourriture, pas de logement. Pas d'assistance médicale, ils nous disent ils nous disent de revenir après deux ou trois semaines, ils nous disent chaque fois qu'on vient. À cause de vous, on vit comme des mendiants, on n'a pas de logement, on n'est pas traité comme les mineurs doivent être traités en France. On vous demande des logements, de prendre en charge les mineurs qui arrivent en France. On est venu pour étudier, suivre une formation. On veut être inscrit à l'école. On va avoir des éducateurs, des éducatrices qui s'occupent de nous et posent nos problèmes. On ne veut pas rester dans la rue, on n'est pas des voyous. Là, vous êtes fatigué, c'est le trop.
Ils sont fermés, moi je me dis peut-être comme ils ont appris qu'on devait faire une marche aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont fermé, mais moi, c'est la cause.
C'est parce que vous êtes là.
C'est parce que nous sommes là qu'ils ont fermé.
Là, ils se foutent de nous.
Salut, moi moi, je suis une solidaire de plusieurs collectifs. J'appartiens au collectif 113 et je suis là pour soutenir les jeunes qui sont à la rue à Marseille. Ça fait un mois qu'ils sont là dans les rues et que l'adaptresse ne les prend pas en charge, alors qu'ils sont dans l'obligation de les prendre en charge. On s'était dit, les jeunes s'étaient dit qu'on allait aujourd'hui parce que c'est une permanence de l'ADAP. Et là, on arrive et il fait chaud et les locaux sont fermés. Alors que normalement ils sont censés ouvrir. On a appelé la directrice de l'ADAP 13 parce que les jeunes avaient écrit une lettre pour leur parler et leur dire que, leur demander leurs droits. Et elle nous a répondu. Qu'elle n'était pas sur place et qu'elle avait fermé les locaux pour des raisons de sécurité. Ce qui me paraît complètement absurde parce que c'est bien eux qui sont en insécurité, les jeunes à la rue et pas l'inverse. Et qu'en fait, ils sont là pour communiquer et puis en fait, à un moment, il faut falloir répondre. Donc la réponse des jeunes a été de revenir aux permanences, c'est-à-dire c'est les lundis, les mercredis et les vendredis de 8h à midi. Et ils seront là tous les matins jusqu'à ce qu'ils leur offrent leurs droits, c'est-à-dire une place de logement, de quoi se nourrir, de la santé, accéder, ils veulent aller à l'école, donc trouver des places pour l'école.
Donc on est au 35 boulevard de Briançon, à côté du métro Bougainville.
Oui, venez nombreux et nombreuses tous les lundis, mercredis et vendredis. Merci pour votre soutien.
Le vendredi, quand ils vont ouvrir, on va venir. N'importe quel jour qu'ils vont ouvrir, même s'ils vont ouvrir devant, ils vont ouvrir derrière nous aujourd'hui, on va se retourner encore. Une fois que c'est ouvert, c'est la manifestation en fait. Ok? Ils vont ouvrir demain ou après-demain. Le jour que c'est ouvert seulement, là, on revient. On n'attend même pas maintenant, on est trop fatigué. Voilà, on descend au vieux-port, pas de violation avec la tête, calmement, et puis c'est ça, ça passe, ok?
Et donc voilà, se retrouver devant des locaux fermés, sous le cagnard. Les jeunes ont décidé de repartir. Il y a eu une petite manifestation au Vieux-Port. Et ensuite, le groupe s'est dirigé vers le haut de la Canebière, au niveau du kiosque, où a été monté un campement, qui a été expulsé très rapidement par la police nationale. À ce moment-là, il y a eu un appel à l'aide à la mairie et à différentes institutions qui n'ont rien proposé. Et en fait, dans la foulée, il y a un nouveau campement qui s'est mis en place, cette fois devant le collège Thiers, dans le but d'interpeller le département, qui est censé gérer et les collèges publics et l'accueil des mineurs isolés. Pour la mise à jour de ce matin, 15 septembre, donc il y a une vingtaine de jeunes de ce groupe qui sont dans des squats expulsables, et les autres, donc environ 40, sont toujours devant le collège Thiers dans des tentes. En fait, il y a toujours besoin de soutien et pour faire de la présence, amener de la bouffe en priorité, surtout le matin. Il ne faut pas hésiter à passer, amener de la nourriture et aussi des couvertures et d'autres tentes. Il faut savoir que les profs syndiqués du collège Thiers s'organisent pour faire rentrer les jeunes à la cantine du collège le midi. Et à côté de ça, la mairie fournit, donc via le SAMU social qui est géré par la mairie, de l'eau et quelques boîtes de conserve. La mairie a clairement exprimé que si elle fait ça, c'est parce que le groupe n'a pas campé devant chez eux. En gros, c'était le deal. On campe pas devant la mairie, mais vous nous apportez à manger. Ce à quoi il a été répondu, si vous campez devant chez nous, non seulement on ne vous donnera pas à manger, mais on vous dégagera. Bref, ils et elles veulent que le département prenne leurs responsabilités, mais tout ça à grands coups de chantage et d'instrumentalisation. Aujourd'hui, à 13h, les jeunes font une réunion pour voir quoi faire ensuite, et notamment sur cette question d'aller réclamer leurs droits devant l'ADAP 13 à toutes les permanences. Il y a possibilité d'aller à cette réunion en observatoris, et donc on rappelle l'adresse, ça se situe devant le collège Thiers, 52 place du lycée près de Noailles. Ils sont super déter et ont besoin de soutien.
Les infos choisies, vendredi, midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Solidarité avec la librairie de l'Hydre aux mille têtes, où un incendie volontaire a été déclenché dans leurs locaux dans la nuit de ce dimanche 10 septembre. Vu leur nom, c'est impossible de leur trancher leur tête. Elles renaîtront toujours de leurs cendres.
Une vitre a été cassée côté rue du Loisir et le feu a été allumé par cette ouverture, enflammant tout d'abord des cartons vides. Il s'est ensuite propagé à la bibliothèque la plus proche qui contenait la littérature étrangère. Grâce à la réactivité de plusieurs voisines, les pompiers ont été prévenus et sont intervenus très vite. L'incendie a été rapidement contenu et les marins-pompiers ont fait preuve d'une grande maîtrise pour l'éteindre sans arroser l'ensemble des livres de la librairie. En essayant de pénétrer dans le local, ils ont scié le rideau métallique et ont tenté de forcer la porte, tentative infructueuse mais dont les traces sont bien visibles. Ce sont nos voisins, nos voisines de l'immeuble qui nous ont prévenus, alors qu'elles étaient calfeutrées chez elles, sur ordre des pompiers, sans savoir ce qui se passait exactement. L'action n'est pas signée et n'a pas été revendiquée. Nous ne nous lancerons donc pas dans des hypothèses hasardeuses. Néanmoins, l'intentionnalité ainsi que la détermination qui ont permis de déclencher cet incendie ne font aucun doute. Et il faut prendre toute la mesure de ce que signifie incendier le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation en pleine nuit. La librairie est assurée et l'essentiel des dégâts devrait être couvert. Il restera malgré tout une partie des frais à notre charge et la remise en état risque de prendre du temps. Les temps sont sombres, mais nous refusons de nous laisser abattre. Il était important pour nous de rouvrir au moins partiellement, rapidement, et de maintenir les événements prévus. Nous sommes fiers de contribuer à porter et diffuser les luttes d'émancipation passées et actuelles. Et nous continuerons à soutenir les combats féministes et antiracistes, à organiser des rencontres et à vous accueillir pour échanger sur les questions qui nous tiennent à cœur. Le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de venir nous voir, à la librairie, de nous acheter des livres, éventuellement, ou de nous apporter des glaces, par exemple. D'ores et déjà, nous avons reçu plein de témoignages de sympathie et de solidarité. Merci encore mille fois, les libraires de l'Hydre.
Et voilà, on se fait une pause musicale, on écoute Mesdouza Cumbia, qui est une formation musicale de 9 musiciennes situées sur Marseille.
On va écouter le témoignage de Brahim qui raconte une agression raciste qu'il a vécue à Aurillac au printemps dernier. Le procès des agresseurs de Brahim aura lieu au tribunal judiciaire d'Aurillac, 21 place du Square, donc à Aurillac, le jeudi 28 septembre à 14h. Brahim sera lui aussi jugé suite à la plainte de ses agresseurs pour coups de poing n'ayant pas donné suite à une ITT. en gros parce qu'il a osé se débattre. Une cagnotte va être mise en place pour le soutenir et payer les frais du procès. Il y a besoin de soutien, faites tourner l'info autour de vous.
Moi, je suis arrivé en France quand j'avais 9 ans, clandestinement. Et depuis le temps, je subis des discriminations. Chaque jour, j'ai appris à vivre avec. Ça, c'est pas un souci. Je suis rodé pour ça. Ce que je n'accepte pas, c'est vraiment les violences, la violence gratuite raciale. J'étais dans la Drôme et je voulais rentrer chez moi à Périgueux. J'étais sur le chemin avec mon camping-car et je me suis arrêté à Aurillac le 11 avril 2023. Au début de soirée, j'étais en train de jouer avec mon chien dans un parc. Et il y a deux personnes qui m'ont accosté. Ils ont sympathisé avec moi et moi, je ne suis pas très méfiant, on va dire. Pour moi, tout est normal, on est tous des humains. Ils ont fini par m'inviter pour finir le reste de la soirée avec eux. L'homme, il est parti tout seul et la femme, il est monté avec moi dans mon camping-car pour m'indiquer le chemin, pour les rejoindre. Et en arrivant là-bas, il y avait trois personnes. Ils étaient trois en tout. Il y avait deux filles et un homme. Et soi-disant, l'homme, il y a une fille qui est sa sœur. Quand je suis arrivé chez eux, j'ai vu qu'ils ne me prêtaient pas attention. Ils étaient juste en train de discuter entre eux de quelque chose d'urgent, d'après ce que j'avais compris. Et il y avait le gars qui pleurait, qui disait soi-disant à sa sœur, comme quoi, il ne faut pas nous laisser, il faut que tu nous accompagnes, il faut que tu fasses tout avec nous, ne nous laisse pas tomber. Et vu que la fille, il est monté avec moi dans le camping-car et on est arrivé dans le chemin, on a un peu sympathisé, on a discuté, il a vu que je n'étais pas un mauvais gars. Bon, ils étaient en train de me faire un complot pour me tabasser. Et moi, j'étais parti dans le sens, au lieu, je disais à la fille, écoute ton frère parce qu'il ne te veut que du bien, ça se voit qu'il t'aime bien. Et tellement j'étais dépassé par ces sentiments, je me suis éloigné pour respirer parce que c'était dur la discussion, parce qu'il y a eu des larmes versées. Et après, je suis revenu, et c'était quelque chose, une discussion que je ne pouvais pas supporter. Je suis revenu, je leur ai dit, bon les gars, moi je vais rentrer me reposer parce que j'étais fatigué sentimentalement. Je vais rentrer me reposer dans mon camping-car. On se voit demain pour le petit déjeuner. Je rentre dans mon camping-car, je ferme la porte latérale, je me mets en tenue de lit, je me mets sur mon lit pour dormir. Tout d'un coup, j'étais choqué d'avoir ma porte qui s'ouvre et le gars qui vient, il m'attrape par le col et il me met une machette sur la gorge. Et là, sincèrement, il a trouvé un prétexte, il a dit comme quoi moi j'ai maltraité mon chien, alors que c'est pas vrai. Et moi mon chien c'est mon bébé, de toute façon c'est un prétexte. C'est un prétexte parce qu'ils n'avaient pas de raison pour m'attaquer. Ils cherchaient une faute de ma part pour m'attaquer, mais ils n'ont pas trouvé. Et quand ils ont vu que j'allais dormir et tout ça, et ben, ils ont trouvé ce prétexte. Il m'a mis la machette sur la gorge, il me disait... commencé à crier, tellement que j'étais en détresse, moi j'étais choqué en fait. Et quand j'étais choqué, je faisais pas attention. C'est pas que j'avais peur, mais j'étais choqué. Quand j'étais choqué, il me voyait que j'étais... Je regardais pas la machette, ça me stressait pas. Il me disait, mais c'est une machette qui t'a sur la gorge. Je dis, non, mais c'est pas ça le problème, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? J'essayais de le remettre dans la conscience, j'arrêtais pas de le répéter le mot. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es conscient? Et là, il m'a sorti, il m'a tiré, il m'a sorti en gardant toujours la machette sur ma gorge. Il m'a mis un coup de tête dans le nez, il m'a fracassé le nez. Après, il m'a mis un coup de machette et quand j'ai vu son regard, quand il m'a frappé, j'ai vu une haine que je n'ai jamais vue auparavant. J'ai grandi, je suis né dans un bidonville à Casablanca, je suis venu clandestinement, alors j'ai tout le temps vécu tout seul toute ma vie. Je sais ce que c'est, je connais ce que c'est la méchanceté, mais ce regard et ce coup... qui m'a porté avec un coup, il m'a fracturé. Et j'ai fait une opération, mais j'ai quatre os cassés dans mon côté gauche, à côté de l'oreille. Tout le long, je suis tout fracturé, je viens de sortir d'une opération et j'arrive toujours pas à ouvrir la bouche. Et j'ai toujours mal et j'ai toujours les points de suture de l'opération dans ma bouche et dans la tête. En fait, ils voulaient me tuer. C'est aujourd'hui, je suis là, c'est une deuxième vie que j'ai, c'est comme ça que moi je me considère. Parce que la fille, elle n'arrêtait pas de le dire. Coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. C'est le mot qui me rentrait. Tu vois, c'est le mot qui m'a fait le plus peur. Il le disait avec cette phrase, comme ça. Mais putain, coupe-lui la tête, mais putain, coupe-lui la tête. Et c'était ça le mot. Et quand j'ai vu comme ça, et quand j'ai eu le coup de machette sur la tête, j'ai compris qu'ils étaient capables vraiment de me tuer, avec une envie de me tuer, ils voulaient me supprimer, ils ne voulaient pas que j'existe. Et là, j'ai essayé de me débattre un peu, mais le plus grand problème, c'est pas ça, c'est que moi, en fait, j'étais en train d'avoir de la compassion pour eux. C'était, en fait, ils étaient en train de me faire un complot, et moi, à la fin, que j'ai compris qu'ils étaient en train de pousser la fille à les rejoindre à me tabasser. Et c'est pour ça qu'elle, il n'est pas venu. Ils sont venus que les deux. Elle, il n'est pas venu. Et le problème le plus grand, c'est quand j'ai porté plainte, et la police ils sont arrivés. Je dis, voilà ce qui s'est passé. Je dis, ils sont là-bas dedans. Il m'a dit, nous, on ne peut pas les interpeller maintenant. J'ai dit, comment ça? Je dis, si je vous dis maintenant que je l'ai tué, qu'il est dedans, il est mort, vous ne pouvez pas rien faire non plus? Il m'a dit, nous, on ne peut rien faire. Après, quand ils ont vu que j'ai insisté, ils sont partis juste lui parler. Et vous ne pouvez pas savoir le mal que ça vous fait. Quand vous faites tabasser de cette façon, qu'il y a le policier qui vient, qui vous dit, c'est bon, on lui a parlé, il ne viendra plus vous faire du mal. Vous pouvez dormir tranquille. Ça, je n'ai pas accepté. Je suis resté sur place, j'ai appelé ma femme. Ma femme, elle est française, pour être un peu compris, parce qu'on ne peut pas être compris quand on est étranger, tout seul. Et le lendemain, quand il est arrivé, ma femme, on les a appelés la police, et on est allé à l'hôpital, et après on est allé au commissariat, on a porté plainte. Après, ils les ont interpellés, et quand ils les ont interpellés, ils ont porté plainte eux aussi, ils ont été acceptés. Alors, auparavant, moi, quand les Français ils ont porté plainte contre moi, et que moi je suis allé, je dis ça c'est pas vrai, moi aussi je voudrais dire ma version, ils l'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté que je porte plainte. Oui, ils ont pris ma version, mais c'était pas une plainte, c'était une défense en fait. C'était pas une plainte contre eux. Et bien, eux, ils avaient le droit de porter plainte contre moi. Et ce qui prouve que c'est un geste racial, c'est qu'ils ont dit, pour se défendre dans leur plainte, ils ont dit que moi, je leur ai dit « sale blanc ». Ils ont dit comme ça, mais ils ont dit la principale cause, c'est qu'il a maltraité son chien. Mais si soi-disant, moi, je vous dis « sale blanc », que j'aime pas les blancs, ma famille est blanche, tous mes amis sont blancs, j'étais élevé par des Français, j'ai grandi en France, comment ne pas aimer les Français? Ils m'ont invité et j'ai accepté. Malgré qu'ils étaient des gens, on ne va pas dire, moi je ne fais pas de différence, c'est des gens marginaux, avec des tatouages sur les yeux, des larmes sur les yeux, des tatouages, des croix de Hitler, de nazis, je sais. Et pour moi ça ne comptait pas, parce que ce qui compte, c'est les cœurs des gens. Et après, quand ils étaient attrapés, ils ont fait une garde à vue de 16 heures. Ils étaient relâchés. Et soi-disant, ils ont trouvé le prétexte que moi, je leur ai insulté de blanc. Vous savez, moi, je pense que nous, l'étranger, on est comme des poissons. Quand on est dans la mer, ils nous mettent l'hameçon pour mordre dans l'hameçon, pour nous retirer. Mais sauf le poisson, il le pêche pour nourrir les humains. Mais nous, ils nous pêchent, ils nous font venir ici pour nourrir la haine.
Voilà, témoignage super vénère. Et donc on rappelle que le procès des agresseurs de Brahim aura lieu au tribunal judiciaire d'Aurillac, 21 place du Square, le jeudi 28 septembre à 14h. Besoin de relayer l'info autour de vous. Alors aujourd'hui à l'après-m, l'ancien McDo à Sainte-Marthe, réquisitionné par ses salariés suite à l'annonce de la fermeture, est transformé en fast-food solidaire. Il y a un appel à soutien au projet de 16h à 17h30, l'Assemblée Générale, et ensuite de 18h à 1h, un concert de soutien à l'après-m avec de nombreuses têtes d'affiches. Ça se passe au 214 chemin de Sainte-Marthe, dans le 14e. Plus d'infos sur l'agenda de Mille Babord.
Et très rapidement, demain, c'est les un an du décès de Jina Mahsa Amini, une femme kurde voilà, qui est morte suite aux abus physiques commis pendant sa détention. Il y avait une manif prévue aux réformés, mais du coup qui est annulée parce qu'il n'y a pas d'autorisation de la préfecture. On trouvait ça quand même important d'en parler.
Marche des fiertés LGBTQIA+, demain à Gap. Elle partira à 16h de l'esplanade de la paix. Et surtout que c'est important de la relayer puisqu'il y a une attaque homophobe et transphobe du planning familial de Gap la semaine dernière.
Toujours demain à 19h, samedi 16 septembre, un point d'info public sur le rachat collectif de la DAR au 127 rue d'Aubagne.
Dimanche 17 septembre, ça se passe à Calais et il y a une manif contre le projet de centre de rétention et contre la répression suite aux ouvertures de squats à Calais en février 2022. Venez nombreuses.
Lundi 18 septembre, une réunion des AED à 19h contre la précarité des AED et pour le droit des lycéennes à s'habiller comme elles veulent au 55 rue Saint-Ferréol à Marseille.
Et enfin, mercredi 27 septembre, projection rencontre du documentaire Croquante à 19h30 au Gyptis, rue Loubon, dans le 3e à Marseille. Un ciné-débat sur la place des femmes dans l'agriculture en présence des femmes du film, de la co-réalisatrice, des associations organisatrices et de femmes paysannes locales. Voilà, c'est la fin des infos.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Bon salut. Week-end.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.